Vous écoutez Cause Commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm et c'est le moment à corps au corps.
Introduire l'événement et puis après on va passer au déroulé avec les personnes proches ou les personnes qui veulent parler, qui veulent partager un texte en premier, puis les associations, les collectifs et puis on finira. Et on finira par la lecture des mots, voilà, et par le moment de recueil. C'est une journée internationale de mémoire et de recueillement, le 20 novembre, qui se déroule dans le monde entier, donc de recueillement pour les personnes trans qui ont perdu la vie en raison de violence, de discrimination. C'est un jour pour se souvenir, pour honorer leur vie. Désolée. C'est aussi un jour pour réfléchir aux défis, la précarité massive, les violences de genre, les violences familiales, les violences conjugales, les problèmes liés à la consommation de drogue, un mauvais accompagnement par les pouvoirs publics, la criminalisation du travail du sexe. Chaque année, la liste des personnes décédées nous rappelle que ces morts ne sont pas des fatalités individuelles, mais relèvent de mécanismes systémiques. Et donc le TIDOR, c'est un moment complexe où se mêlent plein d'émotions, tristesse, colère, deuil, mais aussi courage, solidarité, envie de lutter. C'est un moment où on apprend à transformer le deuil en force, à transformer la tristesse en colère. C'est aussi un moment pour revendiquer nos droits, pour rendre visible que nos vies sont importantes. C'est une journée pour rappeler que toutes les identités trans, binaires, non-binaires, de toutes les cultures, méritent dignité, tolérance, respect, et que nos existences sont multiples et toutes légitimes. En nous rassemblant ici, place de l'Hôtel de Ville, nous reconnaissons aussi le chemin parcouru, la possibilité de parler publiquement au centre de la ville, les avancées arrachées. Le TIDOR nous rappelle qu'on est à la fois au début de la libération et encore très loin d'où on devrait être. Pour traverser ce moment, nous avons la chance d'être entourés de nombreuses voix, celles de la communauté, des collectifs, des associations, des personnes qui vivent ces réalités et qui les portent mieux que quiconque. Et aujourd'hui, ce sont ces voix que nous allons écouter.
Bonsoir tout le monde, merci d'être venu en nombre, ça fait plaisir surtout aujourd'hui. Alors moi je vais vous parler du patchwork des noms pour ceux qui sont tout derrière. Je vous inviterai après à venir observer ce patchwork parce qu'aujourd'hui pour le TIDOR, nous présentons ce patchwork des noms. Patchwork qui a été fait au PAST, fait avec les amis du patchwork. C'est un patchwork unique, construit pour garder la mémoire des personnes trans décédées, des vies fauchées par la transphobie, par la violence sociale, institutionnelle, policière et par l'abandon politique. Dans le contexte actuel où nos droits sont fragilisés, où les discours anti-trans gagnent du terrain, où la violence se banalise, ce patchwork devient un acte de résistance. Chaque nom, ici, rappelle que l'effacement n'est pas une théorie, il tue, que l'exclusion n'est pas un débat, c'est une réalité, et que nos mortes, nos morts, ne doivent jamais devenir des chiffres. Associer ce patchwork à cette journée, c'est dire clairement que nos communautés se tiennent debout, ensemble, malgré tout. Nous le présentons pour honorer nos mémoires, pour dénoncer les violences qui les ont emportées et pour rappeler aux institutions que leur vie aurait pu être sauvée. Le patchwork est notre réponse collective, un refus de l'oubli, une preuve d'amour et un engagement communautaire pour que leur nom reste visible, pour que nos luttes restent vivantes. Merci. Je veux vous parler de mon ami Gérard. C'est un ami que j'ai rencontré au collège et on a tout de suite accroché. On ne s'est pas quitté pendant le lycée. Il était drôle, passionnant et passionné. On a grandi et évolué ensemble dans un groupe d'amis et on s'est ouvert les uns aux autres sur nos genres et nos sexualités. Il nous a aidés à nous découvrir, il avait la discussion facile sur plein de sujets. J'aimerais le remercier pour ça, pour nous avoir aidés à nous comprendre et à nous accepter. Mais si je vous parle aujourd'hui de lui, c'est que je ne peux plus lui dire tout ça de vive voix, parce que Gérard est mort. Il s'est ôté la vie le 6 septembre 2024. Sa gentillesse et ses blagues cachaient une famille intolérante qui ne l'a jamais respectée. Violence, agression depuis l'enfance, rabaissement quotidien sur son physique, sur son attitude, sur tout ce qui faisait de Gérard son essence. Et elles étaient psychophobes et transphobes. Car oui, Gérard était un transpédé, neuroa et anarchiste. Et ça, sa famille ne l'a jamais accepté. Ils ont laissé Gérard dans une précarité financière terrible. Aujourd'hui, je suis en colère. Un an après que Gérard nous ait quittés, je le suis toujours. Pas contre Gégé qui a décidé de mettre fin à ses jours, non. Mais contre tout ce qui l'a poussé à cet acte. Contre moi de ne pas l'avoir, de ne pas m'être rendu compte de la détresse de mon ami, que je connaissais depuis le collège, pour lui avoir envoyé un message 2 mois avant son décès, pour qu'on essaie de se voir mais qu'on n'a pas trouvé de disponibilité. J'en veux à l'État qui a laissé Gérard dans une précarité honteuse. Mais par-dessus tout, j'en veux à sa famille, qui n'a jamais respecté de son vivant. Et encore moins maintenant. On a dû se battre avec elle pour avoir le droit de mettre son nom, son prénom Gérard sur son urne. Et même si la famille a fini par accepter ce prénom, Yael non. Yael n'a pas pu s'empêcher d'ajouter son DNA, et ce malgré nos contestations. J'ai peur de ce qui pourrait se passer pour mes amis, pour nous, pour les personnes transpédéguines, pour les personnes trans travailleuses du sexe, pour les neuroas. J'ai peur de voir un nom de plus dans cette liste.
Je parle ici ce soir pour Emma, qui s'est ôté la vie le 2 novembre 2025. Je lui ai écrit un poème. Je vais vous en lire une partie. Dans nos cœurs éparpillés et ces pensées qui ne veulent pas me laisser, aime-moi encore une fois, Emma, aide-moi à retrouver la foi d'un monde meilleur pour toi, pour moi. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole ?
Oui. J'étais le meilleur ami de 3 ans de Charlie, ou slash Puppy. Et ça fait un bon moment dont j'ai fait un poème pour parler d'elle, pour pouvoir peut-être toucher des gens. Charlie, on s'est connus puis reconnus, ensemble malgré tes si beaux défauts. On s'est vus puis revus, ensemble, et tu as été mon héros. Tu m'as tellement aidé, malgré mes si horribles défauts. Tu seras toujours là aussi pour moi, comme tu as été quand tu étais là. Je te dis comment je serai plus tard et tu m'as répondu trop tard. Et c'est sous les étoiles que tu seras ma toile, sous les fleurs, sous mes pleurs, sous les étoiles.
Merci. Je suis le frère, la sœur de Joe, qui nous a quittés cette année le 5 mars 2025. Voilà. Et qui m'a laissé une lettre avant de partir, me demandant de vivre un peu pour lui et de surtout continuer à faire ce qu'on aimait faire le plus ensemble, c'est-à-dire beaucoup de musique et d'art. Voilà, donc j'ai écrit cette année une chanson pour lui que j'aimerais chanter rapidement. Voilà.
Danser, il est grand temps de te laisser caresser les anges de tes talons, qu'on a prié d'adoucir le cours du temps pour les vivants qui sont restés coincés de l'autre côté, du mauvais côté. Chante-leur tes douleurs, tes mille couleurs, donne-leur des hauteurs, des espaces qui nous ressemblent dans les grands moments. Prends bien ton élan, attends-nous devant. Jongle avec le temps, crie dès que tu sens qu'on s'est donné. Merci.
Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Plume. Je venais aussi aujourd'hui témoigner pour mon amie Célène. Elle aurait fêté ses 29 ans aujourd'hui. Cette semaine, ses cendres ont été dispersées dans la Manche, non très loin d'où elle a vécu. Et je voulais en profiter pour lui rendre hommage. J'ai des amis qui le feront aussi au Tidor de Rennes. Et donc je voulais passer un message à toutes les autres villes qui vont aussi réaliser le Tidor, car nous ne sommes pas juste ici à Paris, mais partout en France et même ailleurs. La première fois que j'ai connu Célène, elle était dans un état psychologique très compliqué et je me suis reconnu en elle. Je venais de commencer ma transition et j'étais tout aussi perdu qu'elle. Après plusieurs mois, nous nous sommes revus et elle allait beaucoup mieux. Si je n'aime pas parler de la date de sa mort, mais de la date de son anniversaire, c'était pour souligner le fait qu'énormément de ces personnes qui nous ont quittés avaient, malgré elle, toujours l'envie de vivre et toujours l'envie de continuer. C'est ce que j'ai vu dans ses yeux, c'est ce que j'ai vu la dernière fois que je l'ai vue, au mois de janvier de cette année, et je me disais que tout allait bien, que le plus dur était derrière elle, et pourtant, elle nous a quittés. J'espère que cet hommage nous permettra de nous rappeler que, malgré les situations difficiles que nous vivons, il y a toujours un espoir, et oui, c'est kitsch, et oui, c'est cliché, et pourtant, ça existe. Mais même si les choses vont mieux, il faut toujours veiller sur nos proches et veiller toujours sur celles qui sont autour de nous. Alors, quand vous rentrerez chez vous ce soir, passez un message à des personnes que vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Peut-être que cela pourra sauver des vies. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous. Nous, on aimerait dire un petit mot pour notre amie Loïs, qui nous a quittés le 4 octobre 2025. On aimerait surtout dire un mot, je pense, parce que le discours des Amix résonne et la famille a encore trop de pouvoir aujourd'hui sur tant de choses alors qu'elles sont si maltraitantes. Et voilà, on voudrait juste aujourd'hui donner la parole à tous les Amix qui ont été près de nous, près de lui, qui savaient vraiment qui il était et qui l'aimont et qui continueront de l'aimer où qu'il soit. Et pour tous, c'est eux qui continuent à vivre et à survivre. Voilà. On vous aime et vive les amis.
Moi aussi, je voulais dire un mot pour Loïs. Parce que, ouais, du coup, ça fait pas loin de 2 mois qu'il est parti. Et j'arrive pas à comprendre qu'il est parti parce qu'on était amis, parce qu'on était proches dans l'âge, dans nos parcours de vie. C'était un peu un frère pour moi, dans mon cœur. Et j'avais l'impression qu'on allait se connaître toute notre vie, qu'on allait évoluer toute notre vie ensemble. Et on avait tellement de choses de prévues. Quand je pense à lui, je pense à ce qu'on avait prévu. Je pense à tout ce qu'on allait faire. Et j'arrive pas à comprendre que ces choses-là, je ne pourrais jamais les faire avec lui. Je ne pourrais plus jamais lui parler. Je ne pourrais plus jamais entendre son avis. sans rire. Et quand j'ai appris qu'il était mort, je me suis promis de plus jamais vouloir mourir, de plus jamais, jamais penser à ça sérieusement, parce que j'allais vivre pour lui. Sinon pour autre chose, au moins pour ça, pour tout ce qu'il voulait faire. Parce qu'il voulait faire tellement de choses.
Cause commune, partage ta radio.
Bonsoir à tous. Moi, c'est Néo d'Accept Testé. Je suis accompagné de Ciel. On va vous dire quelques mots sur le recensement que nous avons mené cette année pour le Tidor. Du coup, le recensement, comment ça s'est passé cette année? On a mis en place, il y a 4 ans, Accept Testé et Le Flirt, un questionnaire que vous avez sûrement dû voir passer, sur lequel on pouvait recueillir les informations de nos adèles qui ne sont plus là. Et ensuite, c'est un travail de revérification des informations. Je vais laisser Ciel préciser ces éléments. Merci. Bonsoir à tous. Notre travail, ça consistait à recontacter les personnes qui avaient envoyé le formulaire, et puis par écrit ou parfois par téléphone. Et puis, quand on n'avait pas assez d'infos, essayer de recouper avec des avis de décès, ce qui est parfois un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de prénoms d'usage qui ne sont pas respectés dans ces avis de décès-là. Je ne sais pas si... Et du coup, on a écrit un petit texte qu'on aimerait bien lire pour parler de notre expérience de ce recensement. Les prénoms défilent sur le tableau Excel. Les photos de visages inconnus s'enregistrent sur mon ordinateur. Des bribes de vie qu'on me raconte au téléphone viennent ponctuer mon quotidien depuis quelques semaines. Des échanges de mails, aussi intimes qu'anonymes, des récits précieux, parfois quelques mots, parfois un besoin irrépressible de raconter. On ne se connaît pas et pourtant j'en sais un peu plus sur elle qu'elles n'en sauront jamais sur moi. 13 ans, 16 ans ou 36. Leur disparition vient me toucher en plein cœur. Je me sens débordée d'amour et de tristesse pour toutes ces mortes et celles qui leur survivent. Débordée, je le suis aussi de joie et de gratitude pour toutes celles qui ont souhaité se rassembler aujourd'hui et qui trouvent du sens à être reliées les uns les unes aux autres. Recenser des fantômes qu'on a parfois connus avant qu'ils soient arrachés à la vie, c'est leur donner une place parmi nous. C'est apprendre à vivre avec ces spectres qui nous hantent autant qu'ils nous épaulent. Le recensement communautaire pour le Tidor, c'est aussi faire avec nos blessures et imaginer son nom remplir une ligne de plus pour le Tidor à venir. Prendre peur à l'idée de voir son portrait éclairé à la lueur des bougies un soir de novembre. C'est se demander quelle photo de soi on aimerait voir, quels mots on aimerait entendre dans la bouche de nos proches, crachés par une sono qui grésille. Mais fabriquer la mémoire collective de nos disparus, c'est aussi se donner de la force pour rester en vie. Qui dansera avec les fantômes s'il n'y a plus de vivanteux pour leur tendre la main? Qui arpentera les rues avec nos disparus s'il n'y a plus de vivanteux sur leur chemin? Qui enfin s'endormira dans leurs bras la nuit s'il n'y a plus de vivanteux pour occuper nos lits? Nos morteux ont besoin de nous vivantes aussi longtemps que possible pour porter leur mémoire. Dobo sont aussi une invitation à prendre soin de celles qui portent nos communautés à bout de bras. Celle qui est à chaque manif et prend toujours la parole. Celui qui te demande comment tu vas et à qui on ne retourne pas souvent la question. Ou bien celle que tu admires par son courage et sa force apparent, mais qui a peut-être, elle aussi, besoin d'une épaule pour la soutenir. Je fais un vœu. Celui de continuer à affûter nos outils et à les partager. À faire du commun pour briser l'isolement qui trop souvent nous tombe dessus. Nos communautés sont belles, lumineuses et puissantes, mais aussi fragiles et épuisées. Et si l'auto-organisation communautaire reste notre arme principale, elle ne saurait se passer des solidarités qu'on construit dans les marges de ce monde qui part à la dérive. Merci à tous et merci d'être ici pour qu'on se sente aussi moins seul dans ce travail de recensement.
Et Et rebonsoir à toutes et à tous. De la part de Accept Este, je vais lire ce texte. Malgré la vie arrachée, malgré la vie opprimée, malgré le creux serré, rien ne pourra éteindre nos espoirs. Accept Este, comme l'ensemble de notre communauté transféministe, nous serons l'écoute en restant toujours à côté des membres de notre communauté ainsi que les proches. Notre travail est plus nécessaire que jamais. Quand on voit la transphobie s'intensifier et soutenue étroitement par le gouvernement fasciste partout dans le monde. Quand on voit la précarité frapper de plus en plus les personnes trans les plus marginalisées, comme les travailleurs et travailleuses du sexe, les migrants et migrantes et les femmes trans vieillissantes. Nous faisons toujours le travail dont l'État ne s'occupe jamais, alors qu'il s'enrichit les milliardaires et laisse les gens mourir de faim dans la rue et dans le froid. Nous accompagnons nos ADF dans toutes les démarches administratives, sociales et médicales, en espérant qu'il n'y ait pas une de plus. Nous combattons dans la rue et dans tous les espaces disponibles afin que la vie des personnes trans vaille autant que la vie des autres et que nos mains ne sombrent jamais dans la différence. Nous nous battons pour que l'accès aux soins, au logement, au travail et à l'amour soit garanti dignement pour toutes les personnes trans. Pourtant, cette année, 281 personnes trans et queer ont été assassinées, dont 25 camarades en France. La plupart d'entre elles sont rejetés par la famille, poussés au suicide, poussés à l'isolement et doivent subir les violences, que ce soit dans la rue, dans les hôpitaux, dans les écoles ou au travail. La transphobie, la précarité, la putophobie, le validisme, le racisme, les frontières et les papiers nous tuent. Les travailleuses du sexe trans, avec un taux de 34%, sont comme les années précédentes le groupe le plus ciblé par les transféminicides. Les syndicats qui parlent de la lutte contre la transphobie, bien sûr, ils parlent tout le temps, ils postulent les choses sur Instagram et ailleurs, sur Twitter, mais ils préfèrent fermer le cœur, alors que nous voyons très bien qu'elles sont tuées car nous sommes trans et putes. Abolitionnisme ne nous sauve pas la vie, mais nous expose à plus de violence. Combien de morts de nos sœurs plus trans faudrait-il pour qu'ils se réveillent et on finisse avec l'hypocrisie? Les putes ne sont-elles pas des travailleuses? Nos morts ne vont-elles pas celles des autres? Nous, les travailleurs et travailleuses trans, nous ne tairons jamais. Nous restons toujours mobilisés et déterminés. Toutefois, nous voulons vous rappeler que cette année, nous avons aussi vu le nombre d'assassinats des militants et militantes trans augmenter. De 6% en 2023 à 9% en 2024 et jusqu'à 14% pour cette année 2025. Ce n'est pas un hasard, mais c'est le résultat de la montée de la politique fasciste et réactionnaire partout dans le monde. Ils préfèrent désigner les personnes trans, les migrants et migrantes, les femmes voilées, les femmes musulmanes, et toutes les peurs opprimées comme cible principale afin de détourner notre regard des vrais problèmes, les fascistes, les racistes et les outards riches qui causent le désastre et le chaos. Nous resterons unis, soudés et plus forts et fortes que jamais dans la lutte contre la transphobie, contre le fascisme, contre le racisme et toutes les formes d'exploitation et de violence systémique. Pour commémorer nos morts, nous resterons en vie, pleine d'espoir et de joie, avec nos poings levés antifascistes, brillants de paillettes transféministes et glorieuses. Vive la lutte, vive la résistance de tous les peuples opprimés, de Palestine à Paris, du Soudan au Congo, jusqu'à ici, tous les peuples du monde entier se lèvent pour les droits des personnes trans, pour les droits de tous les peuples opprimés, colonisés, jusqu'à la fin de l'oppression. Notre libération est collective jusqu'au bout. Hasta la victoria siempre!
Cause commune,
la voie des possibles.
Ce soir, je ne vous parle pas seulement en tant que première afro-européenne et française queer à avoir remporté une couronne internationale. Je me fais le porte-parole pour mes sœurs du Miss Trans Global, de leurs adeptes trans venus d'Inde, Thaïlande, Philippines, Italie, de France, du monde en soi. Elles viennent à vous adresser quelques mots que j'ai dû résumer. Leur message est simple et universel. Que nos identités ne soit plus jamais une raison d'avoir peur. Que nos corps ne soient plus jamais un prétexte pour nous rejeter. Que nos voix trouvent enfin l'espace qu'elles méritent. Elles m'ont demandé de vous rappeler que derrière ce qui semble superficiel, tel que les concours de beauté, il y a des femmes qui se battent pour la dignité, pour la sécurité et pour le droit fondamental d'exister pleinement. Et malgré nos cultures différentes, nous partageons le même rêve. Un monde où être soi n'est plus un acte de courage, mais une évidence. Alors ce soir, c'est ensemble que nous parlons, avec force, avec fierté et avec espoir, pour ne plus perdre de frères et de sœurs autour du monde. J'aimerais aussi vous partager une conviction profonde. Agir compte. Le 25 mars dernier, j'ai organisé mon tout premier événement avec le soutien de la ville de Paris et l'association Inspiration Worldwide, les Inspiration Awards, qui pour sa première édition a mis en avant notre communauté et ses alliés et sa mémoire. Parce qu'inspirer les autres, c'est essentiel. Parce que mettre en lumière les actrices connues et inconnues qui œuvrent chaque jour pour la tolérance et la diversité, c'est une responsabilité. Et il est important de montrer qu'on n'est pas seul ou anormal. Pour ne pas être invisibilisé, pour continuer à exister, à célébrer et à faire avancer notre société. Avant de conclure, je prends la parole à titre personnel cette fois-ci. Ce soir, j'ai ma mère qui est là. Et je vais montrer à celles et ceux qui se sentent isolés qu'avoir le soutien de son entourage, de sa famille de sang, est possible. À défaut, une famille de cœur vous attend. Et elle est tout aussi importante. Parce que leur présence signifie beaucoup. Parce qu'il est important de montrer qu'il est possible d'être soutenu. Et même lorsque nos parents ne comprennent pas, eux aussi apprennent avec nous, pas à pas. Alors ensemble, croyons demain, agissons aujourd'hui et n'oublions pas ceux qui ont succombé aux violences physiques et psychologiques. Ensemble, levons nos poings pour résister et honorer.
Bonsoir, je vous parle de l'association Outrance, qui est une association féministe d'autosupport trans. Je ne vais pas prendre la parole très très longtemps ce soir, mais c'est important que chacun et chacune on puisse se retrouver sur cette place de l'Hôtel de Ville. Il y a de plus en plus de monde dans les personnes qui viennent au fur et à mesure des Tidors, et malheureusement on a aussi de plus en plus de monde tous les ans à commémorer, avec de plus en plus de personnes chaque année qui meurent parce que trans. On va égrainer tout à l'heure et qui sont faites grâce au recensement qui vous a été présenté tout à l'heure ne représente malheureusement pas l'intégralité des personnes qui sont mortes en France cette année simplement d'être trans, sans compter l'ensemble de personnes à travers le monde qui meurent encore aujourd'hui d'être trans tout le temps. On ne devrait pas mourir d'être nous, on ne devrait pas mourir d'être simplement dans nos identités, de pouvoir simplement vivre notre genre. Donc il faudrait que l'on puisse penser ensemble à plus largement que les noms essentiels qu'on va égrener tout à l'heure, mais aussi tous les noms qu'on ne pourra pas du tout égrener parce que encore plus isolés, encore plus inconnus, sont mortes ou morts dans leur coin. Si on en est à ces réunions-là, malheureusement tous les ans, si tous les ans on se retrouve pour parler des 12 derniers mois et sans oublier toutes les personnes qui sont mortes dans les années précédentes. C'est parce qu'on est aussi dans un état, dans une société qui nous opprime encore parce que trans, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'être une personne trans encore en France, parce qu'on est encore sous la dictature de la dysphorie de genre qui considère que si on ne souffre pas, on n'est pas légitime à être des personnes trans et à nous obliger à souffrir, ça nous oblige aussi au suicide et à l'irréversible. Pour le coup, c'est ça, la vraie irréversibilité de nos transitions. C'est sur cette irréversibilité qu'il faut se battre et pas sur les prétendues irréversibilités de nos transitions. On a le droit de vivre nos vies, on a le droit de vivre nos genres, on a le droit de vivre nos fluidités, on a le droit d'être qui on a le droit de pouvoir avancer, de revenir en arrière. On a le droit de vivre nos identités, on doit pouvoir avoir le droit de le faire tout le temps. Et on a le droit de se rassembler aussi pour penser à toutes les personnes qui meurent chaque année parce que trans. Et j'espère qu'une année et que les années à venir, on se rassemblera sans nouveau nom, mais juste pour se souvenir des personnes qui ont donné leur vie pour nos droits, pour nos luttes, pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse être simplement, même si on n'est pas forcément dans la meilleure période pour ça. Et en arrivant sur cette place et en regardant le bâtiment devant lequel on se trouve, on a des grandes affiches avec une d'un côté qui parle d'unité, de l'autre côté qui parle de résistance. Ben, résistons ensemble, et donc il n'y a qu'un seul mot qui vient à la tête, c'est résistance. Merci à tous.
Cause commune, la voix des possibles.
On est réunis ici sur cette place de l'Hôtel de Ville pour un moment que personne ne nous a offert. On est là parce que la communauté trans, encore et toujours, organise sa propre mémoire et sa propre dignité. On est ici parce que nous refusons que nos morts disparaissent dans le silence. Et ce silence institutionnel n'est pas neutre. C'est un silence qui est organisé, voulu, et c'est un silence qui organise un oubli, un effacement. Les morts trans ne sont pas des accidents. Ce sont des morts sociales, politiques. Et le Didar, c'est un moment où on vient accueillir cette tristesse pour en faire aussi une rage, une lutte pour les vivants. On meurt parce qu'on a été isolé, parce qu'on a été précarisé, humilié, expulsé de nos mains, de nos familles, du système de soins, parce qu'on nous a refusé les papiers. On meurt de violence, on meurt de froid, on meurt de drogue, faute de réduction des risques, on meurt d'absence d'avenir.
Un petit paragraphe sur la précarité, parce que c'est quand même un sujet qui est important, qui compte beaucoup, et on le voit quand on épluche le recensement. Chez les personnes trans de 18 à 30 ans, la grande majorité vit encore sous le seuil de pauvreté. C'est documenté, c'est confirmé, c'est la réalité quotidienne. Dans nos communautés, beaucoup de jeunes n'ont pas de logement, hébergement chez les amis, solutions temporaires, dormir chez l'un puis l'autre, se vivre en instabilité permanente. Une autre réalité, c'est le travail. Beaucoup n'arrivent pas à trouver pour aller dans le travail. Discrimination, légendage, ambiance toxique, harcèlement, chef raciste, transport, licenciement camouflé. Et d'ailleurs, sur ce passage sur le travail, je voudrais en profiter pour rendre un hommage à Cynthia, qui nous a quittés cette année. Cynthia est une héroïne, et vous la connaissez tous parce qu'elle avait obtenu l'année dernière, à 21 ans, la condamnation du McDonald's qui l'employait pour harcèlement et discrimination. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on en paye le prix des expulsions, du changement de job constant, des parcours chaotiques imposés par la transphobie sociale et institutionnelle. C'est aussi la mort. Ça peut dire que la précarité, ce n'est pas un détail, c'est logement, santé, alimentation, accès au travail. Et on a besoin d'être pris au sérieux sur cette question. On en a marre des gens qui nous expliquent la révolution en nous citant Marx et Engels. On vous voit, les collectifs qui essaient de snober les assos communautaires. On en a marre des militants qui enchaînent les références théoriques alors que nous, on travaille pour loger les copines, nourrir les copines, sécuriser les copines. Et les copains. Et aujourd'hui, au lieu d'écouter les personnes trans précaires, on se retrouve encore à débattre avec des militants au nom de Trotsky, Rosa Luxembourg. Mais sérieusement, lâchez-nous la grappe. Oui, on veut s'organiser politiquement. Oui, nous aussi, on veut faire de l'entrisme dans les syndicats. Bravo. Mais à un moment, il faut reconnaître sa position sociale et arrêter de parler à la place des personnes qui sont littéralement en train de survivre. Écoutez les collectifs qui distribuent de la nourriture. Écoutez les collectifs qui font du conseil juridique pour les TDS. Écoutez les collectifs qui accompagnent les personnes trans exilées, qui font de l'accueil social, qui organisent des ateliers injection dans toutes les régions de France. Ils sont nombreux. Et vous voyez, les réalités en face, on n'est pas sur un débat Twitter. Ici, c'est la vraie vie. Et ici, et voilà.
Dans quelques mois, on va fêter les 10 ans de la loi de 2016 qui tue des travailleuses du sexe, qui tue des femmes trans. Ces 10 ans de loi qui infantilise des travailleuses, qui les victimise au lieu de les protéger. 10 ans qu'on en est encore à discuter de savoir si oui ou non on a un pouvoir d'agir. C'est une loi qui est une insulte aux femmes trans exilées qui ont traversé des continents pour vivre ici. Une insulte à celles qui connaissent mieux que n'importe qui la violence, le danger, la rue, qui savent reconnaître une situation de violence quand elles en vivent une. Une loi qui met en danger, une loi qui tue directement. Et ce qui est une violence, ce n'est pas le travail du sexe. C'est le fait d'être criminalisé, surveillé, expulsable et traité comme des enfants incapables de choisir. Ce qui est une violence, c'est des centaines de milliers d'euros alloués à la lutte contre la traite et pas un centime aux assauts de travail du sexe qui sauvent vraiment des vies. La violence, c'est de voir des féministes blanches, bourgeoises, cis, décider de qui est une victime et de qui a des droits. Et la violence, c'est de voir la police refuser de prendre les plaintes de nos collègues qui subissent des agressions sur leur lieu de travail. Et il est important, à l'heure où on rend hommage à nos mortes, il est temps de combattre plus que jamais cette loi qui tue.
Le travail du sexe est un travail, merci. Et un petit dernier paragraphe sur les personnes usagères de drogue. Il y a un vrai sujet aujourd'hui de consommation de produits psychoactifs dans nos communautés. Et je n'ai pas ça comme un jugement moral, mais comme un symptôme social, évidemment. Discrimination, isolement, violence. C'est un sujet qu'il faut nommer clairement parce que c'est intimement lié au risque de suicide. Comme le disait Sarah Schulman, je ne connais pas un seul ami qui ait pris sa propre vie sobre. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on observe dans le recensement et dans nos vies. C'est un sujet qui révèle aussi les lacunes du système de santé, un système qui ne comprend pas nos usages, qui ne sait pas nous accueillir, qui se satisfait de nous perdre en route. Aujourd'hui, on essaie de travailler sur cette question, mais on ne peut pas se contenter de projets expérimentaux. On a besoin d'être traités comme de vrais partenaires. On en a marre d'être consultés ponctuellement quand ça arrange et ignorés dès qu'il faut prendre des décisions concrètes. On veut être de vrais partenaires du système de santé, partenaires au moment de la conception des programmes, partenaires au moment de la mise en œuvre des programmes et au moment de l'accueil, des soins, des médiations. Depuis le Covid, les collectifs trans ont montré qu'ils savaient ouvrir des espaces de réduction des risques, accompagner des personnes qui s'injectent des hormones, identifier des personnes en danger, créer du lien, rediriger vers les rares médecins compétents. Le savoir communautaire existe, il fonctionne, il sauve des vies. Il faut que les agences de santé investissent réellement dans la communauté, pas des miettes, pas une expérimentation. Les signes sont là, nous on sait ce qui marche, on sait ce qui manque, on sait ce qu'il faut financer. En 2026, on en est encore à compter les médecins sur les doigts de la trans-friendly, pardon, sur les doigts de la main dans certaines régions. On en est encore à proposer des consultations en visio, 5 ans après le Covid, parce que c'est parfois la seule manière d'avoir un accès digne. Et pendant ce temps, les formations de médecins ignorent encore, les formations principales ignorent encore les personnes trans. Les médecins sortent d'études sans avoir entendu parler de nous, autrement qu'à travers Trump et OJT ou Pascal Pro. Ouais, ça, j'essaie d'être un peu drôle aussi. Pascal Pro, il s'y connaît très bien en trans. Bon, on le connaît très bien aussi. Chaque année. On nous laisse compter nos mortes. Comment ? On veut parler ? Conclusion, pardon. Chaque année, on nous laisse compter nos mortes et chaque année, on revient. On est là, on restera là. Pour nos mortes, pour nos vivantes. Merci.
Bonsoir à tous. Je parle au nom du PAST. Ce soir, nous sommes réunis pour rendre hommage à nos mortes, à celles et ceux dont les noms remplissent nos mémoires, nos marches, nos cris, à celles qui ont été emportées par la transphobie, la violence, la précarité, l'isolement, le silence, à celles que nous aurions aimé pouvoir aider et protéger. La mémoire prend sens ce soir parce qu'elle guide la lutte, parce que pendant que nous prononçons leurs noms, pendant que nous tentons de porter leur mémoire, les violences continuent et l'État permet que ces violences continuent. L'État permet que les associations qui accompagnent les personnes trans soient affaiblies. Nous faisons face à la réduction de nos financements, à la suppression des dispositifs dont nous bénéficions. Et nos équipes ne s'arrêtent pas pour autant, mais s'épuisent. Nos espaces communautaires vacillent alors qu'ils sont souvent le dernier recours, parfois le seul lieu de soins, de repos, de respiration. L'État organise aussi le durcissement des parcours de migration et conséquemment punit les personnes transmigrantes. Les titres de séjour pour soins deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. Les OQTF se multiplient, y compris pour des personnes gravement malades ou déjà bien insérées depuis plusieurs années, et nous faisons face à des délais de traitement pour des demandes de titres de séjour anormalement longs. L'État ferme les portes. Les vies de nos sœurs, de nos frères, de nos adelphes basculent pour un retard administratif. Le chaos administratif dans lequel nos communautés sont plongées est un choix politique qui considère nos existences comme négligeables. L'État permet également que l'accès au logement soit un terrain de violence. Nous voyons des personnes trans, migrantes, travailleuses du sexe, reléguées à des logements insalubres, dangereux, hors de prix. Nous voyons des personnes trans rejetées par leurs familles se retrouver à la rue, ou au mieux dans des hôtels sociaux dégradés, dans des dispositifs d'hébergement qui ne reconnaissent ni leur identité et qui les humilient, qui les exposent à la violence. L'État continue de criminaliser le travail du sexe, ce qui met en danger directement nos communautés. La criminalisation ne protège pas, elle isole, elle précarise, elle tue. Ce soir, nous commémorons nos mortes, mais aussi, nous exigeons la protection de nos vivantes. Nous, vivantes, celles qui se battent chaque jour contre la transphobie, contre la violence économique, contre les frontières, contre un système qui attaque ou au mieux ferme les yeux. Alors nous exigeons que le travail des associations communautaires trans soit reconnu à sa juste valeur, et que conséquemment leur financement cesse d'être remis en cause. Nous exigeons que les politiques migratoires cessent d'expulser, d'humilier, de condamner. Nous exigeons que l'accès aux soins soit garanti et ne soit pas conditionné à des procédures interminables. Nous exigeons que le travail du sexe ne soit plus criminalisé. Nous exigeons que l'accès au logement soit un droit réel, qui ne donne pas lieu à des discriminations quotidiennes. Nous exigeons que les personnes trans aient le droit de vivre sans peur, sans contrôle, sans violence. Nous exigeons la justice. Nous exigeons la vie. Ce soir, nous honorons celles qui ne sont plus là, nous portons leurs noms, leurs histoires, leurs luttes, et en leur nom, nous refusons d'en laisser mourir d'autres. Que leur mémoire guide nos luttes, et nous continuerons à lutter ensemble tant qu'il le faudra. Merci.
Le collectif Insurrection Trans. Le 20 novembre, une date qui nous parle beaucoup, une date redoutée. Chaque 20 novembre, nous nous disons, mais qui sera encore là l'année prochaine. Depuis plusieurs années, nous assistons à l'augmentation significative du nombre de nos morts. Ceci est la conséquence directe de la transphobie et de la cisnormativité qui pollue notre société. Une transphobie qui s'immisce jusqu'au creux des mouvements de ses pseudo-alliés. Une transphobie qui marginalise toujours plus nos corps. Une transphobie qui tue. La transphobie, c'est se faire mégenrer et moquer en permanence. C'est se faire humilier par les contrôleurs parce que nos papiers ne correspondent pas à notre genre. C'est des offres d'emploi refusées pour cause de transidentité. C'est faire face aux refus de soins et aux violences médicales. c'est des insultes et des agressions dans la rue, au travail et ou chez soi. C'est être fétichisé, sexualisé et essentialisé pour notre transidentité. C'est voir notre consentement non respecté et voir notre corps dépossédé. C'est se faire infantiliser, mépriser et voir notre parole confisquée. C'est être une des cibles favorites des fascistes. Aujourd'hui, nous sommes en colère. Année après année, nous comptons les morts, alertons, manifestons contre ce système qui profite aux plus blancs et aux plus cis, mais en vain. Regardons les chiffres. Quand 80% des recruteurs estiment que la transidentité est un frein à l'embauche, quand l'Agence des droits fondamentaux indique qu'en Europe, une personne trans et ou intersexe sur 5 déclare avoir été physiquement ou sexuellement agressée au cours de leur vie à cause de leur identité de genre. Cette proportion est double par rapport à d'autres groupes LGBTI en ce qui concerne la violence physique ou sexuelle. Quand l'on sait qu'une personne trans a environ 8% de plus de risques de suicide. Ces chiffres démontrent l'urgence de la situation. Dans le même temps, nous faisons face au mépris total des personnalités politiques et des institutions, nous utilisant pour parader une pseudo-intersectionnalité sans prêter considération à nos enjeux. La transphobie, c'est le fascisme.
Le 14 février 2020, Sacha écrivait. Allez tous vous faire voir, pour votre irrespect. Aujourd'hui, ma transition est décrédibilisée par une poignée de personnes qui pensent que demander mes droits n'est pas légitime. Le droit de demander à être genré à ce qui correspond à ce que je suis dans ma tête. Le droit de leur faire la remarque. Tout ça en leur laissant du temps. En leur laissant le temps de se tromper, bien sûr. Mais si j'explose, c'est à force de prendre sur moi et de constater l'absence d'effort de ces personnes, ainsi que leur manque de considération. Ce que je suis ne regarde que moi, mais mon combat consiste aussi à réussir à me faire accepter dans cette société sur laquelle je cendre avec ma vogue, en tant que femme, car les gens ne connaissent pas la diversité de ce que peuvent être les corps. Alors c'est comme ça que j'accepte que certaines personnes ne me voient pas comme telles. Mais aujourd'hui, chaque jour est un combat. Et ces gens-là n'en sont pas conscients. Ils vivent dans leur bulle. Ils vivent sans se préoccuper de la portée de leurs mots. Des mots déterminants qui jouent un rôle énorme dans ma dysphorie. Je suis consciente de la difficulté de ce travail. Car il m'a pris énormément de temps. Aussi, moi je demande juste que ce que je fais ne soit pas décrédibilisé ou vu comme une lubie. C'est le choix le plus dur que j'ai fait dans ma vie. Et je ne cesserai jamais d'en payer le prix fort, chaque minute. Mais l'issue n'en sera encore que plus belle. Si je ne me suis pas tiré une balle avant. Donc faites attention s'il vous plaît. Sacha, femme trans, qui a mis fin à ses jours en septembre 2021. Comment faire lorsque la parole nous est retirée? Devons-nous rien faire et se taire? Non. Comme dit une grande militante, la parole ne se demande pas, elle se prend. Nous sommes venus à ce temps. Ce temps où notre rage gronde au détour des ruelles, où les claquements de nos semelles résonnent dans les villes. Ce temps où l'insurrection de nos corps devient nécessaire. L'insurrection contre les violences médicales que nous subissons. L'insurrection contre l'exclusion sociale et professionnelle que nous subissons. L'insurrection contre l'inaccès aux soins des personnes trans victimes de violences conjugales. L'insurrection contre nos meurtres. Appel à rendre coup pour coup, partout, où il le faudra, dans les tribunaux, dans la rue, au travail et chez soi. Que le système tremble face à notre colère. Trans, on meurt, le silence demeure.
Nous allons maintenant passer à la lecture des prénoms de nos chers disparus.
Thank you.
Puppy, Charlie, à 21 ans. Sacha, à 13 ans. Cynthia, à 22 ans. Sandre, à 28 ans. Clément, à 17 ans. Joe, à 26 ans. Luna, à 20 ans. Célène, à 28 ans. Nord, à 23 ans. Macha, à 19 ans. Younes, à 30 ans. Judas, à 31 ans. Luna Dion, à 36 ans.
Madame Kurt, à 47 ans. Christina, à 39 ans. Noah, à 26 ans. Loïs, à 23 ans. Alex, à 23 ans. Gaël, à 36 ans. Dolly, à 38 ans. Emma, à 30 ans. Maxime, à 24 ans. Louis, à 20 ans. Alistair Blair Onyx, à 29 ans. Emma, à 16 ans. Azur, à 25 ans. On va maintenant faire le rituel de la minute de silence. Toujours cette minute de silence, et depuis des années maintenant, on se propose aussi de faire une minute de bruit, parce que là ça fait une heure que les mots résonnent. On espère que les mots que les copains, les copines, les camarades ont dit ont résonné avec vous. Maintenant c'est à vous aussi de faire résonner l'hôtel de ville, de la faire résonner avec toute votre tristesse, toute votre rage, parce que de la colère on va en avoir besoin avec les temps qui courent, on va en avoir besoin pour lutter contre la transphobie. Donc on vous propose de, je vais compter jusqu'à 3 et de crier les prénoms, de crier votre âge, de crier ce que vous voulez, mais de faire un putain de bruit pour que Paris nous entende et qu'on soit pas juste là, en fait, dans le silence à commémorer nos morts. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir, merci à toutes les personnes qui sont réunies et pour pleurer et célébrer et crier, celles qui sont tous là. Le rassemblement arrive à sa fin. On va de notre côté laisser encore quelques minutes les banderoles et les photos. Et si vous voulez repartir avec le cadre de la personne qui vous a été proche, n'hésitez pas. Et on pourra tranquillement finir le rassemblement et se mettre au chaud et continuer à vivre et à rayonner autant qu'on se sent.
Music, man.